Monsieur de Phocas de Jean Lorrain, huitième partie. Le spectre disait. 25 novembre. La fastidieuse et l'horrible journée que nous avons traînée chez cette Jeanne de Morel, la plus horrible et écœurante soirée passée ensuite au Moulin Rouge, et puis l'affreux 1 heure à deux dans ce bar anglais avec ce géant apoplectique d'Arimour et ses ignobles révélations sur Sir Thomas Wellcome. Sir Thomas Wellcome, un des seuls êtres qui m'ait marqué un peu de sympathie, la seule âme en vérité vers laquelle je me sois senti attiré. On dirait que cet étal prend plaisir à déprimer en moi toute énergie, à détruire toute illusion. Il me reste donc, après, tant de misère physique et morale. Avec cet anglais, j'ai la sensation de m'enfoncer dans de la boue et de la nuit, la boue tiède, fluente et suffocante de mon cauchemar d'opium. L'air se raréfie à l'entendre, et ces atroces confidences ne remuent en moi que bas instinct et sale convoitise. Ce Claudius, il porte avec lui comme une atmosphère de bouge. Il a quelque chose d'innommable dans ses insinuations et ses chuchotements. Et cet homme devait me guérir. Il a trouvé le moyen d'augmenter ma détresse morale. La détresse morale du duc de Fréneuse, quelle pitié! Je ne m'en sens pas moins englué dans je ne sais quel remous de vase parfumée et chaude, sous la serre molle et pourtant tenace de cet homme au regard de vautour. Oh, les lueurs troubles de ses yeux verront sous les paupières membraneuses. On dirait que ses prunelles ricanent, et l'étreinte, odieusement caressante et pourtant si prenante de ses doigts cerclés d'énormes joyaux, et la hideur de sa poitrine velue, cette large poitrine de portefaix, qu'il avait mise à l'air, ses Jeanne de Morel, dans le débraillé de sa chemise, car il s'était mis à l'aise pour recevoir les petites. Je me demande encore comment je ne l'ai pas étranglé, tant son sang gêne et ses façons ignobles m'ont soulevé le cœur. Il a drainé ce jour-là à travers mes derniers préjugés et mes derniers souvenirs une pestilence de marécage, et tout s'est fané, flétri sous une haleine de malaria. Comme je le hais d'avoir ainsi tout détruit en moi, comme je l'exècre de m'avoir ainsi sali, Sir Thomas Wellcome. Cela, je le sens, je ne le lui pardonnerai pas. Oh, cette journée truquée, machinée par lui pour saccager en moi les dernières floraisons d'âme. Cette journée, je ne l'oublierai plus maintenant, car elle a tué le peu d'enfance qui survivait en moi. Je suis entré maintenant dans la grande épouvante et la grande nausée. De ce jour, j'ai commencé à descendre, à glisser dans le noir, le mouvant, l'inconnu, le fétide, dans le suprême dégoût de tous et de moi. 2 décembre 1898. Oui, plus j'y réfléchis, cette journée du 20 novembre était truquée, machinée, voulue par lui, et la rencontre d'Itze Kramil dans les salons de l'entremetteuse y avait été préparée. Il sait que j'ai désiré cette fille, un désir de 3 jours qu'elle a pris soin de faucher dans sa fleur, avec une maladresse de pouliche entretenue. Mais son image n'en était pas moins demeurée captivante dans mon souvenir. Il m'a fallu la retrouver dans cette maison de rendez-vous, elle, Itze, tombée dans les passades à 10 louis et moins, elle devenue le plat du jour de Jeanne de Morel, la fourniture des boursiers mariés qui n'ont qu'une heure à eux, après la bourse, et la primeur pour grand seigneur étranger de la rue de Washington. Oh, le pincement au cœur! J'en ai un donc encore? Et l'étrange sensation de froid qui m'a couru sur l'échine, quand dans ce boudoir au volet clos, où des petites impubères grimaçantes et fardées, mimées d'insipides caresses, le rire un peu gras d'idées éclata en fusée, venue d'une pièce à côté. Avec quelle brutalité je repoussai la gamine, dont les 14 ans, mettons-en 18, chevauchaient paresseusement mes genoux avec de pressants appels à mon portefeuille. Oh, la maladresse de ces fausses innocences, et les cheveux entêtants de musc et frisés au petit fer des petits agneaux de madame de Morel. Ils écranillent étaient là. Je pressai le bouton électrique. La Morel vint elle-même, toute souriante sous l'échafaudage compliqué de sa coiffure. La dame d'à côté. Ma voix était si rauque que son timbre m'impressionna. La dame d'à côté. Elle est libre. Le monsieur vient de partir. On n'a pas pu s'arranger. Cette idée est si fantasque. Et la Morel s'interrompait comme si elle en avait trop dit. Vous la connaissez?
Oui, une vieille connaissance.
Je veux la voir, lui parler. Pas de scène, de jalousie, au moins. Je haussai les épaules. Alors la Morel, faut que je la consulte.
Voyons, laisse-le faire,
intervenait Étal en secouant deux petites, pendues après lui comme deux chèvres, après les pampres d'un dieu terme.
Mais c'est 25 lui,
objectait peureusement madame, ils écranillent.
25 lui,
je les donnais à la matrone. Claudius réglait le champagne des petites, et nous suivions la traîne de moire gris-perle de Jeanne.
Izekranil était assise, les jambes croisées sur un divan, les reins à côté à des coussins. Elle fumait du tabac d'Orient, et les épaulettes de sa chemise glissaient le long des bras, découvraient la nacre de ses épaules.
Elle luisait, ses épaules moites et grasses, dans la pénombre des rideaux de fenêtres hermétiquement clos. Il faisait odieusement lourd et tiède dans cette chambre. Je m'y cabrais dès le seuil, pris à la gorge par les stridences fauves, déjà respiré une fois dans la loge d'Idzé. Cranil était en jupon de dessous et en corset.
« Tiens, c'est vous, » faisait-elle, sans se déranger, à l'annonce de la Morel et goûtant de ses lèvres peintes. « Idzé, deux messieurs de ta connaissance. »«
Ah, c'est vous. Comme on se retrouve. En voilà une rencontre. »
Asseyez-vous, vous faites donc la fête, à cette heure-ci, sans y être forcé?
Faut-il que vous ayez du vice?
Alors ça ne bichait pas à côté? Morel a voulu vous placer ses petites du midi, des marcheuses de la gaieté rochechoire. On n'en a pas voulu aux folies bergères. Vous ne montez jamais dans ces quartiers-là, vous autres? Et on vous colle ça, comme des primeurs. Vous êtes corrects. Ça n'a donc pas marché?
C'est comme moi. En v'là un, pente. Il voulait que je mette mon costume du 2 dans la princesse Angora, et tous mes diamants, peut-être encore.
Et ça, est-ce du toc?
Lui ai-je dit en lui montrant mes gigots. Idzé se donnait sur les cuisses des claques retentissantes, et l'ordure continuait à couler de ses lèvres. Comme elle était devenue crapuleuse, de quel bas-fond avait-elle rapporté cette voix enrouée et cette mimique de faubourg? Où j'avais laissé une étoile de music hall, je retrouvais une fille de barrière. J'étais atterré. Ma radieuse vision d'un soir, la Salomé fumante de phare et de sueur des folies plastiques, était tombée au ruisseau.
« Tu as toujours tes belles bagues ? » faisait-elle en me prenant la main.
« Et toi, ricanait Étal, fais voir si tu es toujours jolie. » Et il lui prenait le menton, lui penchait la tête en arrière pour lui regarder les dents. Jeanne de Morel s'était levée et allumait les bougies.
Ils écranaient, il était toujours jolie.
Elle avait toujours dans son visage, large des tempes, étroit du bas comme un masque de faunesse, ses splendides yeux aux prunelles d'agate, ses larges yeux d'un blanc d'émail, où s'irradiaient des lueurs grises et vertes, les fameux yeux qui ont regardé la mer.
mais une expression d'infinie lassitude vanait et tirait son visage. Le petit sourire triangulaire de sa bouche menue flottait maintenant détendu, malgré l'effort à retrousser les lèvres. Cranil était fanoché, éreinté par la noce et l'horrible vie où elle était descendue. L'enrouement de sa voix semblait répandu sur toute sa personne. Qu'elle était devenue commune, et comme je la détaillais dans une angoisse. « Qu'est-ce que cela ? » m'écriai-je tout à coup, en désignant sur sa poitrine des rougeurs et des taches violâtres qui partout la marbraient. On eût dit des meurtrissures, des coups d'ongles, et même des bleus où le sang extravasé serait venu mourir. « Qu'est-ce que cela ? » faisais-je avec effroi. « On t'a battu ?»« Non, on m'a aimé. Je suis avec un grec. » Et un marlou, s'esclaffait Étal. On t'a roué de coups, tu dois le payer cher pour qu'il t'arrange comme ça. Alors elle, avec un rire canaille, et ça, sont-ce des jeux de manant ? Faisait-elle en montrant orgueilleusement trois petites taches rouges sur son sein gauche. Ça, ripostait Claudius, penché curieusement sur la peau d'Isée. Mais ça en est, ma fille, il faut te soigner. Est-ce monstrueux Étal lâchait le mot tout à trac. Salaud ! Se récriait la danseuse. Ça, c'est une fantaisie de 25 louis la tâche, avec celle que j'ai dans le dos, une bagatelle de 2000 au nabab qui s'est offert ça. C'est une brûlure de cigarette. Comment ? Il y a des hommes qui s'amusent à brûler les femmes pour leur plaisir. Abîmer une créature comme toi ? Mais quel cochon as-tu donc à faire ? Il faut vivre, résumait cyniquement Isée. Et puis chacun a sa petite passion, n'est-ce pas, chérie ? Elle clignait effrontément de l'œil en me regardant. Sa main sournoisement glissait sur ma nuque, y promenait des doigts caressants et fureteurs. Je me dégageais, écœuré. 25 louis, une brûlure. Est-ce que ça fait mal ? On s'y fait. 25 louis. J'ai envie d'essayer. Tu permets ? Cet affreux Étal faisait mine d'allumer une cigarette. Ça, Claudius, je vous le défends. Partons, j'en ai assez. Je l'empoignais et l'entraînais de force, en laissant 50 louis à Isée. Toujours ma boule, concluait la fille en raflant les billets de banque. Eh, madame Morel, un soda et un peu d'éther. Dehors, c'était la pluie, les flaques de boue et la détresse des becs de gaz clignotant dans la brume, les trottoirs luisants et la fuite hargneuse des passants guettés par les filles à l'angle des trottoirs. C'était l'heure où Paris s'allume. Toute la boue de la ville coulait vers la débauche, et j'avais toute cette boue dans le cœur. Nous dînâmes au cabaret. Le soir, ce fut une écœurante tournée dans les boîtes à musique de Montmartre, la pilule amère des idioties 100 fois ressassées et des funèbres gaietés de la butte, toute la valerie d'une vadrouille dans les endroits où l'on s'amuse, et nous finîmes au Moulin Rouge. De pauvres filles rongées d'anémie, de vices besogneux et tristes, de la misère en haillons de soie et des badauds excités de sales convoitises autour de dessous douteux remués par des professionnels. Toutes les hontes d'un prolétariat de luxure secoué à heure fixe pour émoustiller l'ennui de petits calicots et de petits bourgeois. Et c'est là qu'Étal prétend me faire rencontrer le regard. Partout le spectre d'Isée m'obsédait. À travers toutes les filles rencontrées, c'était la même lassitude, éreintée et morne, les mêmes ordures débitées au passage pour allumer la salauderie des hommes, la même crapulerie dans la voix et le geste. Des veaux, comme dit le peintre Fauri, qu'il nous fallut remorquer toute la soirée pour l'avoir trouvé à 10 heures dans je ne sais quel cabaret du ciel ou des assassins. Au dehors, toujours la pluie, la ruisselante pluie, pleurant sur la ville et pleurant dans mon cœur. l'affreuse odeur de chien mouillé retrouvée dans tous les endroits. Sur les boulevards extérieurs, le guet des misérables prostituées en jupons crottés, et derrière les vitres des marchands de vin, la manille oisive de leurs souteneurs, le pari de luxe et de plaisir que chantent les poètes de Montmartre. Enfin, à minuit et demi, pour couronner ce calvaire, la rencontre annoncée est prévue d'Harry Moore, l'entraîneur de Maison Lafitte, dans le bar de la rue Aubert, la flânerie autour du comptoir, le poison acre et pimenté des cocktails, et entre deux hoquets de gin, les salissantes histoires de ce bookmaker bavant à plaisir sur Sir Thomas Welcome, et avec de gros rires, tuant, assassinant en moi la mélancolique et belle figure de Thomas, comme dans la journée cet odieux étal avait détruit en moi la vision d'Idzé. Idzé est devenu un gibier de maison de rendez-vous, comme Thomas, un condamné de hard labor. Une journée de spectre, en vérité.
Cloaca Maxima. Ici des lacunes déroutantes, des erreurs de date involontaires ou voulues. Des altérations d'écriture, une déconcertante incohérence dans tout le manuscrit, son auteur évidemment frappé, malade. Janvier 1899. Cette salle de première, c'est bien la grande infamie avec l'étalage au bord des loges, de tous les diamants aux pimes des fortunes mal acquises, et de la prostitution. Toutes les chevronnées du vice étaient là, déshabillées dans des robes de parade, et sous le maquillage savant, figées d'orgueil et le sourire aux lèvres, pareilles à des idoles triomphales sous la flamme des colliers et l'or faux des cheveux teints, toutes flanquées d'une notoriété des lettres ou de la politique. Apprenti ministre ou académicien de demain, toutes radieuses d'afficher, comme amant ou mari, elles, les ex-filles à la mode, l'homme aujourd'hui en vogue, car on les épouse maintenant. Dans les baignoires aux fauteuils d'orchestre, c'était attifée d'étoffes légères, la grâce frêle et tourmentée des acteuses de petits théâtres et des filles cotées du jour, des Cranil et des Willy, les petites femmes à tête diminuée et fiévreuse, alourdies par des cheveux épais, la plupart l'air de pages insolents et précieux, avec leur profil d'une délicatesse mièvre, et toutes dégageant un charme obsédant et pervers. Là-dessus la veulerie des hommes, leur teint de poisson bouilli, aggravé par le blanc de porcelaine des plastrons, le rictus de la bouche molle, la lassitude éreintée de leur démarche et la laideur de leurs yeux cuits, toute la noce, et puis les faces fielleuses de la critique, les œillades obliques des augures, jugeant tacitement la pièce, toute l'ignominie des chers confrères et des poignées de main complices, le complot organisé des couloirs. Ce spectacle, je l'avais pourtant 100 fois vu, et jamais je n'avais encore perçu avec tant d'acuité la laideur des masques. Jamais, à travers le mensonge des parfums et des phares, mes narines n'avaient si cruellement démêlé l'atroce odeur de putréfaction d'une salle de théâtre. Toutes ces femmes et tous ces hommes, dans ces loges, j'en connaissais les vices et les tares, les misères et les scandales, comme ils connaissaient, eux, la détresse de ma vie et les affreuses légendes chuchoté sur mon nom. D'abord, n'étions-nous pas là pour confronter et afficher cyniquement chacun notre personnalité viveuse et parisienne, notre belle gloire boulevardière faite de honte d'hier et de désastre de demain? Et au mouvement d'une lorgnette braquée sur moi, au dessin du sourire d'une femme aux écoutes, je devinais mon nom
prononcés et les propos tenus. C'était dans une avant-scène. Le gros Niederberg, enrichi par 10 faillites, Niederberg, dont les exécutions à la bourse se soldent par des achats de villas à Cannes et de grands hôtels en Suisse. Niederberg, bouffi, boursouflé de graisse, malsaine, avec sa face de lèpre blanche et son allure de suffète. Puis, en suivant le rang dans les loges, les trois frères Hellmann, l'air de squelettes d'oiseaux, avec leurs épaules hautes, leurs maigres torses en proue de navire et leurs museaux de peseurs d'or, lèvres minces, nez plus mince et yeux plus minces encore, mais d'une luisance jaune de métal sous leurs clignotantes paupières. Tous les trois banquiers, et entretenant en commandite la belle Conchita Meren, épanouie comme un camélia blanc devant leurs trois habits noirs. Et puis Meischerod, encore un banquier, celui-là, mais viennois, viennois expulsé de Vienne, qui affiche bruyamment cette pauvre Nelly Fernel, son paravent, et dont la devise, cueillie à la préfecture et chuchotée dans les maisons closes, est « Laissez venir à moi les tout petits enfants ». Tous juifs, naturellement, naturalisés français, mais cosmopolites et maîtres de Paris. Suivez les hommes politiques dans les loges des muses gouvernementales et sémites, ceux dont on cite les prix tarifés d'abstention et d'amendement, les grands journalistes à tant l'article, ceux qui, pour 50 louis, loueront la pièce ou n'en parleront pas, et les rancuniers, ceux qui dénigreront quand même, parce que la direction a rendu le manuscrit ou l'étoile de la troupe l'invitation à souper, quand ce n'est pas le carnet de chèques. Dans le troupeau, je reconnaissais svelte et cambré dans son frac à revers de moire, du bois évrard, le beau du bois qui exploite les filles et se bat pour elles au besoin. De Marsonnet, le peintre, qui a épousé sa maîtresse, sans réfléchir que la fortune de Nina Marbeuf était viagère et passait à sa mort aux trois enfants qu'elle a du baron Arnheim. D'Estelier, l'éditeur qui n'édite que des Dreyfusards, et Dorimot, son confrère, qui n'édite que des nationalistes, mais qui tous deux lancent en dessous main, l'un les livres de Gip, parce que Gip rapporte, et l'autre les pamphlets d'Aljalbert, parce que le pamphlet, à l'étranger, c'est du pain. Toutes les hypocrisies et toutes les audaces, toutes les honorabilités en façade, dont l'intérieur est en lézarde, depuis les épouseurs de dot adultérines, de par les millions de pères naturels juchés sur une austérité scrupuleuse et tardive, jusqu'à de Saint-Fénas, qui tire aux courses les chevaux que lui fait monter son frère, et Marforade, le poète anarchiste, au gage de Frénac, qui reproche à Moreuse d'aimer l'armée à l'école militaire et vit dans l'intimité d'un masseur. Et alors, venue pour la divette du théâtre, cette délicieuse et fragile Eva Linière, ses grands yeux d'ange de Gozzoli, effarant, effaré, sauvage et prometteur, si drôle à trouver dans sa face de Gavroche tout le Lesbos des premières, toutes les femmes damnées qu'attire à nos spectacles le charmant alicient des professionnels du travesti. Et c'était Blanche, de sa beauté grasse et blonde d'Irlandaise, Maud White, dans la loge de l'Alternation, la vieille duchesse de la soirée d'étal, plus récrépie, dongant et plus spectrale que jamais, sous les pustules nacrées d'une armature de perles, faisant ses vieilles chairs verdissantes, la vieille Alternechair, avec le frère et la sœur. Dans une baignoire, la gorge lourde de la marquise Neidorf voisinait avec la taille épaisse d'Olga Merianinska, la slave et la sicilienne, à coquiner par les mêmes goûts, était là aussi pour les épaules gamines et le visage amaigri d'Eva Linière, cinglante d'éphébisme dans un polyte de l'Orestie. Cette Eva, c'est pour elle aussi que Mouzaret, le svelte et fin poète grand seigneur, cambrait là, dans un fauteuil, son torse corseté et sa petite tête ridée et inquiète. Le de la barre, le musicien qui les affole toutes, l'accompagnait. Les deux ennemis avaient fait la paix, réconciliés dans le culte équivoque et capiteux de l'actrice. Je reconnaissais là aussi tous les Anglais gourmés et lustrés de la soirée de Claudius, disséminés dans la salle, mais reconnaissables à leurs faces poncées et lourdes, on eût dit tirés par des mâchoires pesantes, ils communiaient tous, eux aussi, dans la religion nouvelle. C'était comme la célébration d'un rite dans toute cette salle où les jambes menues de l'actrice tenaient en haleine tous les hommes et toutes les femmes dans l'attente et l'espoir d'un accident de maillot. Devant tous ces spectateurs à groins de porc et ces spectatrices à faces convulsées de goules, le souvenir d'une eau forte de Rops s'imposait. Une effroyable et justicière eau forte, où la luxure impératrice du monde, est stigmatisée sous les traits d'un squelette couronné de fleurs, mais un squelette, on peut dire sirène, car au-dessous des vertèbres du torse s'épanouit une croupe charnue, et deux jambes fusent, deux jambes rondes de statue ou de danseuse, qui épousent les reins en forme de beaux fruits. Et comme la vision se précisait, obsédante, l'actrice en scène devenue pour moi décharnée avec la tête de mort apparente sous la face, et les jambes et les reins demeurés seuls, eurythmiques et charnels, et que je me sentais sombrer dans la terreur devant ce spectre, concentrant sur lui les yeux vides et fous de toute une salle de masques, une femme entrait dans l'avant-scène de gauche. Tous les regards, toutes les jumelles s'étant tournées vers elle, je subissais malgré moi l'effluve magnétique et dirigeais mes yeux vers la nouvelle venue. C'était une longue et svelte jeune femme, toute pâle dans une exquise toilette bleu pâle qui la faisait plus pâle encore. Pâleur inquiétante d'hostie, visage d'un ovale aminci à l'expression spirituelle et souffrante, les yeux comme agrandis d'un outre-mer tournant au noir, dans des cernes bleuies, meurtries, tachées de nacre. Elle personnifiait l'étrange et fragile créature, la psychique beauté du XXe siècle. Où avais-je déjà vu ce nez délicat aux narines mobiles et vibrantes, et le halètement de cette poitrine plate, de cette taille trop mince, sous les plumes légères de l'éventail, ou ce sourire d'émail incisif et charmant, ce rire du bout des dents entre le rouge des lèvres. Tous les yeux dévoraient cette pâleur, toute la luxure de cette salle buvait le filtre de cette beauté de fièvre et d'agonie. C'était dans les prunelles et les sourires allumés la même excitation qui tout à l'heure avait salué l'entrée de l'actrice en scène et, une minute avant, soulignait les déhanchements et les gestes osés du travesti. Un homme et une femme accompagnaient la créature à la robe bleu pâle. Dans l'homme, je reconnaissais le mari, un mondain de lettres, sans moins de talent que les gens du métier, mais sans plus non plus. La femme était la princesse de Sériman frileuse, l'archimillionnaire, Yankee, que sa dot a imposé au faubourg. La petite tête de passion et d'énergie déjà remarquée dans l'atelier d'étal. La jolie Madame Stalys avec la princesse de Sériman. Alors elle aussi? Toutes les androgynes de la salle tenaient leurs jumelles braquées sur l'avant-scène et détaillaient l'américaine et sa nouvelle amie, les unes admirantes, les autres dénigrantes, toutes mordues dans leur chair, par la même hystérie et par le même désir. Les hommes, eux, lorgnaient et souriaient, ayant compris. Sur la scène, Eva Linière continuait de cambrer une anatomie de jeune page, dans le maillot mauve étoilé d'argent mat d'un nord-est d'opérette. Hélène de Montmartre et très grecque d'Asie. Tous marchent, toutes et tous, ricanaient à mon oreille étale, dont j'avais totalement oublié la présence. Anesthésie dans la stupeur du spectacle ambiant et des visions suggérées. Tous et toutes comme l'affiche. Paris qui marche, était le titre de la pièce. Une idiote revue à grand spectacle, tout en décor et en nudité féminine. En effet, remarquez, Eva Linière ou la petite Madame Stalys, c'est le même genre de beauté gracile et poitrinaire, le même charme de chlorose et le même piment maladif. Vénus de Père-Lachaise, chair en verre de Venise, l'attrait de la fragilité où s'allume la brutalité pressée et jouisseuse de brasseurs d'affaires, des agioteurs et des parvenus. À ces arrivées d'hier, il faut des mièvres élégance, de fin de race. La sensation se décuple à la pensée qu'il brise et meurtrisse des délicatesses de duchesse ou de vierge, broyeur d'or et broyeur de chair, remueur de monde et cueilleur de lys. Nous qui sommes des raffinés, nous y sentons surtout l'odeur du cadavre. Il ne faudrait pourtant pas s'emballer. Je connais la délicieuse apparition de l'avant-scène. Madame Stalys possède une solide santé, et Eva Linière aussi. Cette pâleur, cette langueur d'attitude, cet état fébrile des yeux et des lèvres sont des masques voulus. C'est par la douche, un régime de maison de santé, la marche le matin et les longues heures de repos, le jour sur la chaise longue, que cette séraphita des premières et que cette éphèbe de beuglant parviennent à cet aspect chimérique et charmeur. La beauté précieuse de Madame Stalys est la raison d'être du talent de son mari, qui promène à travers les salons ce spécimen de fleur rare. La phtisie cultivée de la petite Eva excite le client et achalande la maison. Le public en a pour son argent, et chacun fait ses affaires. Regardez-moi cette salle affolée sur ces deux maigreurs. Où les anarchistes ont-ils la tête quand ils vont poser leurs bombes dans les cafés à l'entrée des gares? Voyez-vous le bouquet, dans une salle comme celle-ci? Les âmes et les choses y sont-elles assez mûres pour la bouillie finale? Et vous avez encore des pudeurs, des hontes de vous-même et des timidités. Franchement, vous retardez, mon cher. Regardez, nous sommes à Rome. Les millions de sœur Thomas. Avant-hier soir, dans l'intimité du tête-à-tête et le silence de l'atelier d'étal, je me suis fait raconter en détail la fin mystérieuse de Monsieur de Burde, dans laquelle fut si bizarrement compromis sœur Thomas Wellcome. Wellcome qui vit, du jour au lendemain, se fermer devant lui tous les clubs de Londres, et promène maintenant à travers l'Asie les millions de M. Bird, et la tare d'une réputation à jamais sombrée. Dans ce bar où Claudius m'avait traîné cette nuit de l'autre mois, pour entendre Harry Moore raconter l'aventure, nous n'avions pu tirer du gros entraîneur que de balbutiants propos d'hommes ivres, idiotie obscène coupée de lourds hoquets de jurons saxons. Cet apoplectique ivrogne avait vomi sur Thomas sans l'atteindre, et les saloderies éructées à propos de Wellcome avaient souillé mon imagination et attristé mon souvenir, sans pourtant détruire la mélancolique et noble image que l'Irlandais avait laissée en moi. Les insanités de ce bookmaker saoul m'avaient seulement mis en défiance, et juste à s'inquiéter pour atténuer mon regret de n'avoir pas suivi Thomas dans son exode vers l'Inde. car en somme cet ignoble Arimour n'avait rien articulé de précis. Monsieur de Burde avait été trouvé assassiné dans une petite maison des environs de Londres, où Wellcome avait l'habitude de se rendre, et où tous deux, et d'autres encore, se retrouvaient, soi-disant pour célébrer les rites d'un culte inconnu, rapporté de l'Extrême-Orient par Monsieur de Burde. Cet excentrique avait la prétention d'imposer au monde une religion nouvelle, et le jeune Wellcome, alors dans la fleur de ses 23 ans, était non seulement un des affiliés de la secte, l'adepte favori, le disciple préféré de l'original instigateur du culte, mais il en était aussi l'héritier, si bien que le matin où Monsieur de Burde fut trouvé étranglé dans le sanctuaire de Woolwich, Sir Thomas Wellcome héritait de 10 millions. Il est vrai que le jeune Irlandais avait passé cette nuit-là au cercle, et qu'un éclatant alibi déroutait tout soupçon. Mais la mort tragique de M. Burde ne le mettait pas moins à 24 ans à la tête d'une des grosses fortunes des trois royaumes. Invoquant la fameuse théorie criminelle du qui prod est, toute la société s'arma de rigueur vis-à-vis du jeune millionnaire. Ce fut l'exclusion d'emblée des clubs et des salons. D'ailleurs, le meurtrier de M. de Burde ne fut jamais retrouvé. J'écris « monsieur » parce que anglais, ou plutôt hollandais d'origine. Mais habitant Londres depuis des années, de Burde avait eu cette originalité suprême de se faire naturaliser français, option de nationalité qui lui attirait l'universel mépris de Londres. Mais les fêtes qu'il donnait 3 fois par an dans Charing Cross et son excentricité même de fondateur de religion l'imposaient, malgré tout, un monde de morgue et d'élégance, épris de faste et d'individualité violente. L'anglais a le plus grand respect de la liberté d'autrui. Toute manifestation d'énergie et de personnalité est faite pour lui plaire, car elle satisfait en lui un goût d'indépendance inhérent à la race. Et c'est déjà être anglais que de mépriser les idées et les mœurs adoptées par les autres pays. C'est l'être tout à fait que de se distinguer et se particulariser par des manies affichées et l'insolence d'habitude bien à soi. Monsieur de Burde réalisait toutes les conditions requises pour intéresser et même garder la faveur de Londres, quoique naturalisé français. Mais se permettre de mourir assassiné et, du même coup, faire millionnaire un Irlandais sans fortune et d'une compromettante beauté de pâtre grec, la société de Londres fit payer à Wellcome le scandale de la fortune imprévue et celui de la fin mystérieuse. Le Kant anglais, qui avait supporté le disciple de M. de Burde, n'en accepta pas l'héritier. Thomas Wellcome dut voyager. Les voyages, c'est l'exil volontaire. Il voyagera toujours maintenant. Sans trop préciser ses insinuations, mais avec un art félin dans le sous-entendu et le dangereux emploi des hypothèses, toute une science trouble du jeu des probabilités, étale, devenu semeur de doutes, étale de son débit monotone et lent, comme détaché, achevait de m'emplir d'épouvante et d'émonder mes dernières illusions. C'était maintenant des particularités sur ce monsieur de Burde et la petite maison du crime. Le peintre semblait étrangement s'y complaire. Une espèce de dormeur éveillé que ce grand seigneur hollandais, toujours abruti d'opium et qui semblait avoir, dans ses yeux vitreux et son teint exsangue, gardé toute l'opprimante léthargie des poisons d'Orient. Dans les derniers temps de sa vie, ce de Burde combattait ses terribles besoins de sommeil par des courses folles, de véritables marches forcées, prolongées très avant dans la nuit, au bord de la Tamise, le long des quais, par les rues désertes du West End et de Whitechapel même, les quartiers les plus dangereusement solitaires. Claudius l'avait beaucoup connu, et quand on évoquait devant le maniaque le péril de ses promenades nocturnes, « J'en ai vu bien d'autres en Orient, » répondait-il avec un haussement d'épaules. « Il ne peut m'arriver rien à moi. » Et puis, j'aime les aspects de coupe-gorge, le sinistre moderne du fleuve après minuit et l'abandon de ses quais, de ses avenues. et c'était avec un pétillement dans les yeux, la description presque amoureuse d'une lueur fatale de réverbère, d'un angle de rue suspecte, d'un cab immobile arrêté sur la berge et se reflétant dans l'eau. Puis il s'arrêtait tout à coup, comme en ayant trop dit. Et rien n'était plus tristement éloquent que ces silences. Ceux de Birds aimaient passionnément le silence et la nuit. Est-ce dans une de ces périlleuses sorties que de Birds fut victime de quelque agression nocturne? La complicité d'un des initiés de la foi nouvelle ouvrit-elle au contraire le pavillon de Woolwich à des assassins anonymes? Le mystère qui enveloppait sa vie se fit encore plus dense autour de sa mort. Ce fut une fin tragique, obscure, fleurant à la fois le crime et l'au-delà. Le meurtre, en tout cas, fut commis par un être au courant des pratiques et des habitudes de la victime, car M. de Birds fut frappé au milieu de ses dévotions, une nuit qu'il s'était rendu à la petite maison du culte, et veillait pour l'accomplissement de quel rite. Avec qui? Ou seul? Prévenu en toute hâte par Thomas Welcome, je fus introduit par lui dans le temple. La police, déjà sur les lieux, avait respecté la position du cadavre. Je n'avais jamais pénétré dans le fameux pavillon. Nul désordre dans le vestibule et les deux pièces que nous traversâmes d'abord. Une simple décoration d'énormes pans de faïence posés à même des murs peints en jaune d'or. La troisième pièce méritait seule attention. Thomas, atterré, était demeuré au seuil. Cette chambre, je la vois encore comme si c'était hier. Une tapisserie Louis XIV en faisait le tour. C'était dans un jardin de terrasses et de colonnades, des guerriers costumés à la romaine, avec des déesses aux tuniques astragalées d'alors. Mais une étrange décoloration avait noirci les visages et les chairs, singulièrement éclairci les étoffes, si bien que sur le ciel devenu roux, au milieu du gris bleu des jets d'eau, c'était non plus des nymphes et des dieux, mais des démons à visage de nègre qui vous fixaient de leurs yeux blancs. Un lit très bas. On couchait donc dans ce temple. Un lit très bas et très large, étalé presque à ras de terre des courtines de soie mauve ramagées de fleurs d'or. Un monstrueux Bouddha veillait aux pieds. Une psyché empire le reflétait. Le lit n'était pas défait, et dans l'air épaissi d'encens et de benjoin, une veilleuse turque brûlait. Deux policemen étaient dans cette chambre. L'un d'eux souleva une portière. Là, dans un réduit de soierie d'un rose mat, sur un écroulement de coussins, de Birds gisait. Il était en tenue de soirée. Un énorme iris blanc marquait sa boutonnière. Il était tombé en arrière, les genoux plus hauts que le buste, et sa tête exsangue, aux narines déjà pincées, avait roulé de côté, mettant en saillie l'arête des maxillaires et la pomme d'Adam. La chute avait dû être violente, et pourtant les vêtements n'avaient pas été fripés. À peine le plastron de la chemise avait-il été entr'ouvert. Une de ses mains crispait étreignait la chaînette d'argent d'un merveilleux encensoir. Pas une goutte de sang. Seulement au cou, à la place où la chair est plus douce et plus blanche, une ecchymose violet jaunâtre, comme une morsure ou la succion d'un baiser long et lent. Le parfum de la pièce voisine régnait près du cadavre, encore plus tenace et plus fort. Il s'y compliquait d'odeurs de poivre et de santal, un peu de fumée bleuâtre, montait encore de l'encensoir. Au milieu de quelle pratique, de quel rite de religion ignorée, la mort avait-elle surpris de Birds? Une énorme gerbe d'iris noir et d'anthurium rouge se dressait, hostile, hors d'un vase d'argent. Sur un petit autel hindou, encombré de tulipes de verre et de ciboires d'or et de bronze, une étrange statuette se dressait. Une espèce de déesse androgyne aux bras frêles, au torse plein, à la hanche fuyante. Démoniaque et charmante, en pur onyx noir. Elle était absolument nue. Deux émeraudes incrustées luisaient sous ses paupières, mais entre ses cuisses fuselées, au bas renflé du ventre, à la place de sexe, ricanante, menaçante, une petite tête de mort.